Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'organisation terroriste État islamique n'a plus de territoire, plus de califat comme disent ses membres. Son chef historique, Abou Bakr al-Baghdadi, est mort dans un raid américain près d'Idlib, le numéro 2 aussi. Mais l'organisation reste vivante et active. Son chef et son porte-parole ont été remplacés quelques jours seulement après leur mort. Les attaques sont quotidiennes dans le nord de la Syrie. Beaucoup de combattants sont retournés à la clandestinité et les craintes sont réelles à propos de cellules dormantes en Irak, sans parler de l'activité dans les autres foyers djihadistes, notamment en Afrique. L'organisation État islamique est-elle toujours aussi dangereuse? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir dans ce studio. Avec nous, Sophia Amara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, réalisatrice, spécialiste du Proche-Orient, auteur des livres « Infiltrés dans l'enfer syrien du printemps de Damas à l'État islamique » et « Baghdadi, calife de la terreur », tous les deux parus aux éditions Stock. Et en duplex de Bruxelles, Sébastien Boussois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et membre de Save Belgium, association ayant pour objet la lutte contre toutes les formes de radicalisation violente, auteur de Daesh, la suite, paru aux éditions de l'Aube. Alors, du printemps dernier, avec la chute de son dernier réduit territorial de Baghouz, à cet automne, avec la mort de celui qui s'était autoproclamé calife, calife Ibrahim, l'organisation État islamique a subi des coups importants. Est-ce que l'on peut dire pour autant que l'EI est vaincu, Sophia Amara ?
Absolument pas. Certes, elle a perdu son califat, ses territoires. Elle a été rayée de la carte géographiquement. Elle a perdu, vous venez de le dire, son chef suprême, à savoir Abou Bakr al-Baghdadi, suite à une traque qui a duré quand même 5 ans. Depuis qu'il a proclamé son califat en 2014, c'est un coup dur, mais ça n'est pas un coup fatal pour l'organisation qui ne compte pas sur des personnes, mais sur une idéologie pour survivre, pour renaître sans cesse de ses cendres. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que Daesh n'est pas né en 2014, c'est sa dernière version en 2014, c'était sa dernière version en 2014. Daesh existe depuis 2006 et elle n'a cessé depuis, c'est-à-dire pendant les 13 dernières années, de renaître sans arrêt sous de nouveaux noms, de nouvelles identités, mais Daesh est toujours là.
Oui, le père spirituel, j'hésite un petit peu à employer ce terme, c'est évidemment l'ancien leader irakien, et son nom m'échappe bien sûr, Zarqawi.
Zarqawi,
c'est ça,
évidemment.
Abou Moussab al-Zarqawi.
Et il y a même eu un Abou Omar al-Baghdadi, qui était le prédécesseur direct d'Abou Bakr al-Baghdadi, qui a pris la relève en 2010.
Sébastien Boussois, quand on annonce mission accomplie, Daesh est vaincu, c'est de la communication politique, ni plus ni moins, de la part des gens qui voudraient le faire croire.
Oui, c'est une vraie communication politique, c'est un vrai écran de fumée. Et la réalité, c'est que je suis entièrement d'accord avec Sophia Amara, nous avons peut-être abattu la dernière version territorialisée de l'idéologie djihadiste qui court depuis en réalité les années 70, mais qui a été caméléon, qui a été opportuniste, qui a été pragmatique et qui à chaque fois s'est reconverti dans la forme la plus adaptée à notre monde d'aujourd'hui. Donc il est clair que ce territoire sanctuarisé, matérialisé depuis 2014 et qui s'est effondré en 2017, va passer probablement dans une phase de transition, dans une phase, je dirais, silencieuse et dormante. Mais en réalité, nous avons aujourd'hui, et c'est ce que je développe dans le livre, à peu près une quarantaine de franchises de Daesh, de bébés Daesh, qui correspondent à des groupes qui se sont renouvelés, qui se sont adaptés, pas uniquement en Afrique, beaucoup en Asie, je pense aux Philippines, en Indonésie
tout à
par
fait,
exemple,
tout à fait.
Mais également dans les Balkans, globalement sur 40 pays dans le monde, c'est quand même énorme, et on connaît l'objectif parce que Daesh 1 soit mort ou pas, le message il est clair, al-Baghdadi vivant ou pas, le message il est clair, il faut continuer le djihad, il faut purifier les terres où sont les musulmans, il faut purifier également les terres des koufars, et globalement dans ces phénomènes de micro-guerre civile qui sont en train de se passer à gauche à droite, on voit véritablement que une des clés de succès de Daesh, c'est d'avoir provoqué des agitations comme dans nos pays, en France et en Belgique, et dans d'autres pays, pas uniquement à cause des attentats, mais par la diffusion de l'idéologie dont a parlé très justement Sophia Amara.
Oui, l'appareil de propagande, il existe toujours, l'idéologie continue à se propager, Sophia Amara ?
Oui, tout à fait. Moi, j'arrive d'Irak, où j'ai passé de longues semaines, et effectivement, comme le disait M. Boussois à l'instant, non seulement cette idéologie a transformé transcender les frontières, il faut aussi mentionner l'Afghanistan, où l'organisation est très active. La Libye. L'Afghanistan. Et donc, bien sûr qu'elle a connu un recul, mais aujourd'hui, ce que j'ai découvert en Irak, c'est qu'en fait, la phase des cellules dormantes est dépassée. Aujourd'hui, depuis 2018 et jusqu'à nos jours, à ce jour, en 2019, en un an, le nombre d'opérations terroristes a multiplié par 3 en Irak. En Irak, on était à 1200 opérations l'année dernière. Cette année qui n'est pas terminée, on en est à 4500 opérations. Et ils disposent de fonds absolument incroyables. C'est des centaines de millions de dollars, le nerf de la guerre, qui sont présents en Syrie, en Irak, ou investis à l'étranger dans des pays dont on ne peut pas se douter, du Soudan à l'Azerbaïdjan, en passant par la Malaisie ou Dubaï.
C'est une organisation complètement évolutive et polymorphe, Sébastien Boussois.
Oui, c'est rien de le dire. J'utilisais le terme de caméléon, on est vraiment là-dedans. Moi, j'invite tous les auditeurs à lire le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies du 15 juillet, un rapport qui fait une trentaine de pages. Deux éléments m'ont vraiment inquiété, alerté. Le premier, c'est que le Conseil de sécurité estimait à peu près sur l'ensemble des 80 000 combattants morts, repartis dans leur pays d'origine ou dans les camps des Kurdes, à peu près 30 000 individus qui sont soit dans des camps, soit sur le point de s'enfuir, soit une partie qui s'est enfui après l'offensive turque grâce au président Donald Trump, et d'autres qui se sont déjà rapatriés sur d'autres terres de djihad, et probablement en Irak. Effectivement, la déstabilisation qui est à l'œuvre actuellement n'est pas tout à fait séparée de ça. L'Afghanistan est dans une même situation, la Libye également, et le deuxième chiffre qui est cité par ce rapport du Conseil de sécurité, c'est qu'on estime actuellement les ressources de cette fameuse plus grande entreprise terroriste de l'histoire à un montant évoluant entre, la fourchette est large, mais entre 50 millions de dollars et 300 millions de dollars qui circulent en cash ou qui sont sur le compte de djihadistes, en tout cas le compte de proches de djihadistes, difficilement décelables aujourd'hui.
Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, Sébastien Boussois. Au moment de l'offensive turque dans le nord de la Syrie, le Premier ministre français, Édouard Philippe, disait que la résurgence de l'organisation État islamique était inéluctable. Sophia Amara, vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui et non à la fois. Parce que, évidemment, qu'on a beaucoup critiqué Trump, n'est-ce pas, pour avoir pris cette décision de se retirer, en expliquant, notre ministre de la Défense l'a clairement dit, que c'était un danger pour la stabilité et la paix mondiale, parce que ça allait entraîner un renouveau de Daesh. D'abord, premièrement, Daesh n'a pas attendu ce retrait ou cette attaque, cette offensive turque, pour continuer à travailler, à œuvrer, pour se réorganiser sa structure, en mettant ses chefs dans le désert et en se remettant à grignoter du territoire ou grignoter à travers les mentalités et rentrer partout là où en Irak la corruption, le chômage, les inégalités, la marginalisation de la population sunnite a permis à Daesh de s'ouvrir des boulevards. Et bien là encore, ils n'ont pas attendu le retrait américain ou l'offensive turque, d'une part. Mais par ailleurs, ce que l'on doit dire, c'est qu'au final, aujourd'hui, on critique Trump, certes, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Est-ce qu'on y a été ? Nous, on n'y était pas. Trump a été, puis s'est retiré. Nous on est inexistants.
Oui,
on ne fait rien.
Sébastien Boussois, le retour à la clandestinité, il a été largement anticipé. Je pense notamment, il y a plusieurs années de ça, un message audio de Abou Mohamed al-Adnani, dans ce sens, qui a anticipé déjà la perte du territoire. C'est été pensé très en amont.
Oui, je crois que... Déjà, moi j'ai toujours tendance à considérer que Daesh est un succès parce que, et bien malgré moi, parce que ce territoire, personne ne l'attendait, personne ne l'imaginait, il a résisté 3 ans et demi, venant presque, entre guillemets, si je puis dire, de nulle part. Le retour à la clandestinité sur l'histoire, et c'est ce que je développe dans le livre.
C'est la norme depuis, en fait. Hein.
Oui, depuis l'Afghanistan, on est dans des phases comme un accordéon d'expansion et de retrait. On se retrouve dans des terres de régénérescence ou de ressourcement que peuvent être l'Afghanistan, que peuvent être l'Irak, que peuvent être le Sahel par exemple. En tout cas, c'est effectivement ce que dit Sophia Amara, sur des terres en général qui sont déstabilisées, des terres de chômage extrêmement important, de conditions économiques et sociales précaires, d'autoritarisme sans issue, d'injustice globale. Aujourd'hui, comme le dit Fethi Ben Slama, ces individus qui basculent, ce sont des individus qui ont toujours été considérés et se considèrent comme des personnages héros et qui rêvent de devenir des personnages héros. L'idéologie daéchiste a proposé à bon nombre d'entre eux de devenir quelqu'un par la mort et puis aujourd'hui probablement par la survivance de ces individus qui ont survécu à Daesh et qui pour moi deviendront les vétérans de demain de l'idéologie djihadiste.
Est-ce qu'il y a toujours une organisation centralisée avec différentes branches, une direction militaire, un service de renseignement par exemple? Au moment du remplacement de Abou Bakr al-Baghdadi, on nous dit que le conseil consultatif de Daesh s'est réuni pour élire un nouveau représentant. Il y a toujours une direction centralisée, Sophia Amara ?
Écoutez, oui, il y a une assemblée consultative. Quand Abou Bakr al-Baghdadi a été tué, ou en tout cas le raid a été mené contre lui et qu'il s'est donné la mort, quelques heures après, son porte-parole était tué à l'autre bout de la Syrie, pour ainsi dire. Enfin, pas à l'autre bout, mais en tout cas, il était très loin. Il était du côté de Jarablus, vers la Turquie, mais de l'autre côté. Donc, du coup, il semble que ces chefs de Daesh, ce qu'il en reste, ne se trouvent pas tout le temps au même moment, au même endroit. Et on comprend difficilement comment ils peuvent se réunir pour prendre une décision, d'autant plus que les Américains et toutes les frappes qu'ont connues ce mouvement et le mouvement qui existait avant, c'était justement durant les directions des chefs qu'ils évitent absolument, ou qu'ils organisent avec beaucoup de précautions. Cela étant dit, certes, c'est le Conseil consultatif qui nomme le chef de l'État islamique, tout comme Abou Bakr al-Baghdadi, dont le monde vient de se débarrasser, eh bien, a été nommé par un conseil consultatif avec 11 membres et qu'il a, il a été nommé à la tête de l'organisation qui allait devenir Daesh peu après.
Sébastien Boussois, des différentes branches, une branche militaire, un service de renseignement, l'Amniyat, c'est ouais, ça, comme, ouais. qu'on l'appelle comme ça, ça existe toujours?
Oui, je pense que niveau conseil d'administration ou conseil consultatif, il est peut-être fort possible que ça se fasse tel que Daesh l'a largement développé, c'est-à-dire par les outils de communication modernes d'aujourd'hui.
Ouais. Et c'est probablement encore. Ils ont organisé un Skype, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, pratiquement.
Peut-être probablement, en réalité, c'est comme l'histoire des États qui ne mettent pas le Premier ministre et le Président dans le même avion. On est un peu dans cette même situation. Et effectivement, je pense que les pôles de décision sont éclatés justement pour éviter le drame au moment d'un tel raid. Ce qui est évident, c'est que Daesh a produit une communication sans pareil jusque maintenant, qui passait par les réseaux sociaux, par Instagram, par Telegram, par Signal et par des réseaux qu'on a encore du mal parfois, dont on a du mal à remonter la piste. Je pense que ce type de réunion peut se faire par les moyens virtuels qui sont effectivement les nôtres, qui sont les leurs aussi aujourd'hui malheureusement, et que la communication de toute façon de Daesh continue, elle a un peu faibli par moment, mais elle a largement de quoi être relayée, y compris au sein même de nos pays, en France, en Belgique ou ailleurs, d'individus qui se sentiront l'âme de vouloir continuer à véhiculer l'idéologie.
Est-ce qu'on peut imaginer que la direction, si elle existe, se redéploie et s'installe dans d'autres sanctuaires? Je pense au sud libyen, le nord du Sahel, Sophia Amara, c'est possible ça?
Écoutez, ça me semble compliqué parce que pour eux, le cœur du djihad, c'est le Cham.
C'est le Levant.
C'est le Levant. Tout comme il semble difficile que pour la succession d'Abou Bakr al-Baghdadi, ce soit, comme on l'a dit à un moment, un Tunisien, un Saoudien. Rien n'est exclu pour l'instant, parce que le nom qui a été annoncé, c'est un nom de guerre qui ne correspond pas à une personne réelle. Et pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Mais ça, il semble difficile qu'il s'éloigne du Cham, qui est le Levant et qui est pour eux le symbole suprême.
Oui, c'est une organisation historiquement à 80% irakienne, Sébastien Boussois.
Mais c'est le premier califat de la résurrection. Je pense que le coup de génie de Daesh, c'est d'avoir réussi et d'avoir tenté de réconcilier et de reconstituer ce fameux califat aboli en 1923 côté turc, mais en tout cas d'essayer de ressusciter le califat abbasside et omeyyade, Damas et Bagdad réunis à un moment ou un autre. Ça a raté. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ce soit le régime irakien qui est dans cette situation très instable, ou alors le régime de Bachar el-Assad, pour lequel tous les djihadistes étrangers qui sont partis sur la terre de Shams, qui sont partis au Levant pour combattre, ils étaient là au départ, en grande partie, pour combattre contre Bachar el-Assad qui massacrait sa population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le contexte qui a favorisé cette accélération de Daesh sur le terrain syrien est à peu près presque similaire.
Abou Bakr al-Baghdadi est-il plus fort mort que vivant, Sophia Amara? Il est mort au combat, hein. Est-ce que ça renforce son aura dans la sphère djihadiste?
Écoutez, le CV militaire d'Abou Bakr al-Baghdadi laissait à désirer. D'ailleurs, il a été plus ou moins imposé par les baassistes, c'est-à-dire les anciens de sa Saddam Hussein contre le gré d'Oussama Ben Laden, qui le trouvait trop violent et en même temps pas sans suffisamment, un CV de militaire suffisamment étoffé.
Oui,
il n'avait pas pris les armes, il n'a pas combattu en Afghanistan et c'était un homme qui apprenait la théologie. Donc aujourd'hui, il est mort. Évidemment, la dernière ligne de son CV qui du coup en a fait un héros selon les critères djihadistes. Cela dit, l'organisation sera sûrement boostée grâce à son départ parce que l'homme souffrait. L'homme souffrait de plusieurs maladies. Il était diabétique, il avait de l'hypertension.
Il avait été blessé
par 3 fois, dont une fois qui a failli lui coûter la vie, puisqu'on l'appelle le calife aux 7 vies, puisqu'à chaque fois il en réchappait. C'est ce que j'explique dans mon livre. Donc, mais en tout cas, l'organisation risque d'en être boostée, même si le monde est débarrassé de ce terroriste en chef.
Merci Sophia Amara. Merci à vous également, Sébastien Boussois, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour. Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Merci tout spécialement à Pierre Benazet pour la mise à disposition de ses moyens techniques à Bruxelles. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, le football, la Ligue des Champions, le Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Club Bruges, en direct et en intégralité. Bonjour chez vous.